Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être là pour cette intervention sur le travail du studio. Alors, je ne sais pas si tu me corrigeras si on dit studio ou pas, MacBird, qui est l'expression artistique et vidéoludique d'une game designeuse qui s'appelle Tatiana Villela dos Santos, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement parce qu'elle est à l'étranger, mais un de ses collaborateurs qui va nous présenter un peu tout le travail qu'a fait Tatiana et Olivier également, donc Olivier Drouet. Un travail qui utilise le jeu et l'expression vidéoludique pour poser des questions, pour surtout mettre en jeu les corps des joueurs, pour faire se positionner les joueurs de manière différente à ce qu'on peut voir d'habitude dans le jeu. Donc on est plus dans le domaine de l'expérience ludique que du jeu vidéo au sens littéral du terme. Et au passage, une des installations de Tatiana est actuellement en place en salle G, donc sur la mezzanine. Il s'agit de Contre-Ciel qui sera présenté au cours de cette présentation. Si vous avez des questions à n'importe quel moment pendant la présentation, n'hésitez pas, au contraire. Donc levez la main et on vous amènera un micro pour qu'Olivier puisse vous répondre. Donc bien, Olivier, je te laisse te présenter et commencer cette histoire de la dévolution de MacBird.
Ça marche. D'abord, bonjour à tous. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de parler, notamment en public et avec un micro. D'habitude, c'est justement Tatiana qui s'occupe de ça. Donc, effectivement, Tatiana Villela dos Santos, c'est une artiste numérique et game designeuse. Elle se définit comme designeuse d'interaction, au sens un peu plus large. C'est son domaine d'expertise. Et du coup, je collabore avec elle sur un certain nombre de projets, mais pas tous. Je ne connais pas l'intégralité de son travail. Mais elle a donné une conf à l'Indiecade à Paris, l'Indiecade Europe, du coup, qui s'est tenue il y a 2 semaines, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, j'ai honteusement récupéré sa présentation, qui me servira de support pour présenter ses différents travaux. C'est une présentation un peu particulière, parce qu'elle est allée à l'envers, c'est une présentation rétroactive, on va dire, de ses projets, et qui commence du coup par le dernier en date. Voilà. Du coup, juste pour me présenter moi aussi, donc moi je m'appelle Olivier Drouet, je suis game designer et game developer. Et voilà, j'ai connu Tatiana pendant nos études, on a travaillé ensemble du coup un certain nombre d'années. Et voilà. La presse articulée autour d'une timeline, du coup, comme je disais, rétroactive, d'une partie de ces projets, pas l'ensemble, notamment tous ceux qui ont eu l'occasion d'être exposés au moins 2-3 fois dans des lieux divers et variés. Le dernier jeu en date, pour le coup, sur lequel j'ai collaboré avec elle, ça s'appelle Negemu. Pour ceux qui ne lisent pas le japonais, je pense que c'est la majorité des gens. C'est une production qui date de cette année. En termes de contexte, en fait, comme beaucoup de ses projets, c'est un jeu qui a été réalisé lors d'une résidence artistique. Le principe, du coup, c'est qu'un lieu, ça peut être un musée, un lieu d'exposition art numérique, parfois des écoles ou des choses comme ça, finance en fait un projet. Et du coup, invite un artiste ou plusieurs à venir dans leurs locaux pendant quelques jours, quelques semaines parfois, pour produire une pièce. Et en échange, ils ont la primeur, on va dire, de l'exposition. Negemu, du coup, a été exposé et créé dans une résidence artistique dans une école qui est, j'ai oublié le nom malheureusement, qui est située en Tunisie. Et l'inspiration, en fait, sur ce jeu, c'est... Tatiana s'est mise au judo il y a quelques années et du coup sa pratique d'un art martial lui a donné envie justement de faire partager cette expérience. Et derrière, en fait, vous allez le comprendre avec les projets précédents, elle s'est émancipée de plus en plus en fait, du côté jeu vidéo purement numérique, à jouer uniquement avec des contrôleurs classiques. Et sa spécialité, c'est devenu la création en fait, de contrôleurs, qu'on appelle les contrôleurs alternatifs. Donc, c'est le fait de construire ses propres contrôleurs pour ne pas jouer uniquement avec des claviers, des souris, des manettes classiques. Et donc du coup, Negemu, le principe, c'est on a un espace de jeu qui est projeté sur un matelas, histoire que ce soit un peu moins dangereux. Les gens jouent assis, à genoux. Et sur cette surface de projection, on a une espèce de triangle. À chacune de ses extrémités, on a un couple de boutons, bleu et rouge. Et du coup, les joueurs choisissent une couleur pour se représenter. Et le but du jeu, en gros, c'est une sorte de roulette qui va désigner un couple de boutons. Et le but, c'est d'aller appuyer le plus rapidement possible, en fait, simplement sur le bouton de sa couleur. À ce moment-là, l'espèce de serpent qu'on voit On a une espèce de double Ouroboros, un serpent par couleur qui va tenter de manger son adversaire. Et lorsqu'on a réussi à complètement manger le serpent adverse, on a gagné. Là, l'image qui est là, c'est la deuxième expo du projet qui a été du coup faite à la Cité des Sciences à Paris. Et où du coup, on a eu un public très exigeant, en fait, parce qu'on a du coup la chance d'exposer devant des enfants. Donc du coup, c'était surtout des jeunes qui étaient venus jouer. Et bon, généralement, eux, quand ils n'aiment pas un truc, ils vous le disent, ou ils ont l'air tout de suite déçus. Donc on était très contents, parce que du coup, ça a très bien marché au niveau des petits. Ça, c'était plutôt une photo de l'expo en Tunisie. Et ça marchait aussi avec les adultes. Donc ce travail-là était assez intéressant, parce que du coup, il y avait vraiment cette recherche de... faire jouer à nouveau les gens avec leur propre corps. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'indication de gameplay, tout ce que les gens avaient à faire, c'est appuyer le plus rapidement possible sur un bouton. On a mis au point un deuxième gameplay qu'on n'a pas encore exposé pour l'instant, qui était en fait simplement appuyer le premier sur son bouton et devoir empêcher l'adversaire pendant un certain temps d'appuyer sur l'autre bouton pour valider son point, une petite variation. Mais dans les deux cas, en fait, le principe, c'est qu'on ne demande pas aux gens de faire autre chose que d'appuyer sur un bouton. Derrière, en fait, les différents comportements varie beaucoup entre le rapport des gens entre eux. Les enfants, par exemple, couraient littéralement sur les tapis pour se jeter sur les boutons, etc. Les adultes avaient tendance à un peu plus bluffer, faire semblant de partir dans une direction, bloquer leurs adversaires. Ça restait bon enfant, on n'a pas eu d'affrontement physique trop violent. Mais du coup, le comportement des personnes changeait vraiment en fonction de leur background et de leur lien entre eux.
Et surtout, il n'y a pas de règle en fait, imposée là-dessus. La seule indication, c'est d'appuyer sur le bouton. Quoi. Donc
exactement.
Les gens s'inventent leur propre façon de jouer au jeu finalement.
Ouais.
On a l'impression quand on le voit que ça ressemble un peu à une version du Twister finalement, avec cette règle un peu particulière et puis du côté fin numérique. Mais finalement, dans la pratique, là, en tout cas sur les photos que tu nous montres, ça finit par ressembler à un Twister, en tout cas quand les enfants s'en emparent.
Ouais, les entremêlements de corps, oui, il y en a eu beaucoup en fait. Après, la référence de base, effectivement, c'était vraiment le judo, ce qu'on appelle le newaza, c'est tout ce qui est combat au sol, directement au sol en fait. Il y en a eu un petit peu aussi en fait au final. Mais on a eu par exemple des frères et sœurs en fait, l'un faisait du judo, l'autre de la danse, et du coup ça se voyait aussi, hein, les mouvements un plus souple, l'autre plus agressif en fait, on va dire. Donc voilà. Ça c'était pour le dernier projet. Le projet précédent. Qui est justement celui qui est exposé, une des versions exposées à l'étage, en salle G, qui s'appelle Contre-Ciel. Alors là, c'est très différent comme projet. Il a aussi été réalisé lors d'une résidence artistique au Shadok, qui est un centre d'art numérique en fait, à Strasbourg. Et c'était dans un cadre un peu particulier, parce que c'était pour une expo, on appelle ça une monographie, en fait une expo solo, donc c'était uniquement des pièces de Tatiana qui étaient exposées pendant 2 semaines, je crois, ou 1 semaine ou 2. D'autres pièces dont je vais parler juste après. Contre-Ciel, le principe, c'est que du coup, c'est inspiré un petit peu des... je crois que le projet a changé de nom, mais avant ça s'appelait Play Me, I'm Yours. C'était en gros un concept, on met des pianos essentiellement dans des gares. Ça se faisait beaucoup à Paris, mais j'ai vu ça dans d'autres... Enfin, c'était un peu partout en France.
Il y en a une ici aussi.
Ouais. D'accord, ok. Bon, le principe un petit peu universel. Et du coup, en fait, ça permettait à des inconnus en fait, d'aller jouer du piano. Le problème, c'est... Enfin, c'est pas un problème. C'est qu'une fois que le truc a marché, avec le buzz, il y a eu pas mal de gens qui savaient vraiment bien jouer du piano, voire des gens même connus qui se filmaient en train de jouer, en fait, faire un peu des happenings, en fait, on va dire. Et du coup, ça donnait un peu moins envie aux personnes un peu plus amateurs, en fait, avec un niveau plus léger, de s'essayer en fait, à jouer quand même en public, etc. La idée Contre-Ciel, c'est un petit peu l'inverse. C'était le fait de... donc le principe, déjà, je vais peut-être expliquer ce projet. En gros, c'est une toile suspendue, une sorte de ciel interactif, qui va réagir en gros en fonction de ce qu'on joue. Donc, du coup, Tatiana caractérise ça comme une sorte de... on appelle ça une pierre de rosette à explorer. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour le coup, on ne donne aucune instruction au joueur. C'est... presque, on pourrait dire, ça pourrait être débattu, que c'est pas vraiment un jeu, il n'y a pas une fin en soi, il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est juste un ciel interactif, et pour interagir avec ce ciel, on joue du piano, littéralement. Du coup, on peut jouer un peu de n'importe quoi, il se passera quand même quelque chose. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fonction du background aussi, à nouveau, des personnes, les comportements sont différents. Les gens qui savent vraiment jouer du piano vont tenter de voir ce qui se passe quand ils jouent telle gamme, tel rythme, alors que des personnes un peu plus habituées, on va dire, à des ingénieurs sonores ou des ingénieurs, vont plutôt aller se dire que okay, ça fonctionne en MIDI. Du coup, ce qu'on récupère comme input en MIDI, c'est l'index de la clé et la note et la vélocité, la force à laquelle on appuie. Donc du coup, on va se baser sur ça comme paramètre. Ils jouent n'importe comment, ils voient comment ça se passe. Les enfants font ça aussi, mais... pour d'autres raisons, j'imagine, ils analysent un petit peu moins le principe. Et du coup, en gros, le ciel réagit, donc c'est un principe de nuages volumétriques, il y a des effets visuels pour représenter la pluie, des éclairs, etc. Et en fait, le ciel finit par changer. On voyage dans la galaxie, compagnie, au fur et à mesure en fait, qu'on joue, jusqu'à revenir à un état normal quand plus personne ne joue. Donc voilà, donc là, il y a une version 1.0, on va dire, qui est exposé à l'heure actuelle, et on travaillait en fait sur une version 2, peut-être pour l'année prochaine, on verra. Donc, voilà.
Qui explorerait quelle direction du coup la deuxième version ?
Explorer davantage plus de possibilités au niveau de la côté pierre de Rosette, exploration en fait. C'est assez difficile en gros d'arriver à générer des interactions qui soient intéressantes en fait en fonction de ce qu'on joue réellement. Derrière, sinon, ça enferme dans le côté, ok, à part les musiciens, personne ne va comprendre que, ok, il faut enchaîner 4 mesures en mi majeur pour arriver à faire quelque chose, c'est pas spécialement intéressant. Donc du coup, il y a un travail de réflexion, c'est plus du design pour l'instant, de voir ce qu'on pourrait faire pour enrichir un petit peu le jeu en fait, le côté quand même jeu ou jouet en fait, on va dire du projet.
Ok. Des questions, des réflexions sur ces deux premières œuvres? N'hésitez pas, si jamais vous en avez, à tout moment.
J'ai tendance à parler un peu vite en plus, donc du coup ça peut être dur de me suivre. Hop, ça c'est Tatiana justement. qui était aussi exposé au Shadok pour la première fois, un projet qui s'appelle l'Atlas des Matrices, qui est un petit peu particulier parce que c'est pas du tout un jeu pour le coup. C'est un projet qui est lié à un autre jeu. Je vais aller tricher un petit peu et vous parler de ce projet-là avant du coup. Donc c'est un jeu qui s'appelle Dead Pixels qui a été créé du coup, c'est un peu un projet de commande en fait on va dire à la base. On l'a réalisé ensemble pour une association qui est liée plus ou moins à Ankama en fait à Roubaix dans le nord de la France pour un event qui avait pour thème en fait le sport et les jeux vidéo enfin d'une façon globale. Et on n'avait pas beaucoup de contraintes en fait, il fallait que ce soit un jeu multijoueur avec le plus de joueurs possible, coopératif, compétitif, il n'y avait pas de problème. Du coup le jeu qu'on a designé, c'est en gros un jeu pour 2 à 9 joueurs sur la première version, par équipe de 3 maximum. Chacun représenté par une couleur, et le principe c'est qu'on a, on ne voit pas forcément super bien, mais en fait un canevas de cases vierges au démarrage. Chaque joueur joue avec son propre joystick, donc ça fait 9 joysticks autour au maximum. Et quand on déplace son petit avatar, le bleu par exemple, on va peindre les différentes cases sur son passage de notre couleur. La deuxième règle un peu plus subtile, c'est si jamais on arrive à terminer une forme, à la fermer, faire une forme close, l'intégralité des pixels blancs à l'intérieur vont se colorer d'un coup, un peu comme avec le bucket sous Paint, ou sur Photoshop plutôt, pour ainsi colorer davantage de cases d'un coup. Si on repasse avec sa propre couleur sur des cases colorées par un adversaire, ça forme des dead pixels, donc des pixels noirs, morts, qui ne comptent du coup pour personne. Donc du coup, il y a un peu deux grandes stratégies, en fait, essayer de colorer le plus possible de cases, ça c'est le but du jeu pour gagner, de sa propre couleur, mais on peut aussi s'amuser à les pourrir, en fait, les zones colorées par les adversaires pour en avoir le plus possible à la fin et être l'équipe victorieuse. La première expo de Dead Pixel, donc c'était en 2016, c'était à Londres, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était un festival qui s'appelle Now Play This. Et j'ai un accent merdique. Et du coup, à l'époque, Dead Pixel était exposé seul. Et l'aspect compétitif du jeu plaisait beaucoup déjà, mais aussi auprès des enfants, en fait, donc on est assez content de ça. Mais du coup, effectivement, ça restait un jeu. C'était le but de base, c'était intéressant. Par contre, les comportements étaient vraiment tournés sur l'aspect compétition, coopération entre équipes, et, entre joueurs de la même équipe et compétition entre les autres. Le lien en fait, avec l'Atlas des Matrices, en fait, c'est que c'est une pièce qui est, c'est ni plus ni moins, une sorte de slideshow, des screenshots pris en fin de partie de Dead Pixel. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, l'Atlas des Matrices est toujours exposé dans la même pièce que Dead Pixel, littéralement à côté en fait. Le truc qu'on a constaté notamment à Strasbourg lors de la première expo, c'est que du coup les gens commençaient par jouer par Dead Pixel, puisque du coup la signalétique en fait a amené les gens à jouer dans cet ordre-là. Vous voyez l'Atlas des Matrices, attendait du coup de voir leur screenshot de fin de partie, ou se rendait compte en fait à quoi consistait en fait cette pièce-là, et refaisait la queue pour rejouer à Dead Pixel. Et à ce moment-là, en fait, la plupart, bon, je ne vais pas faire des stats non plus, mais un grand nombre en fait de gens du coup ne cherchaient plus la compétition en fait, mais plutôt à profiter du jeu en fait pour dessiner des choses, des formes diverses et variées, pas toujours très subtiles. Ça pouvait être juste leur nom ou des fois des trucs un peu bizarres. Mais du coup, en fait, il laissait complètement de côté l'aspect je dois gagner, j'ai 99 secondes pour mettre le plus possible de pixels de ma couleur, etc. Ça devenait un outil de création qui était encore plus mis en avant par la Ceno, où du coup, en fait, les deux jeux étaient projetés en fait sur des canevas, des toiles, oui, on aurait peut-être parlé anglais, des canevas disposés en fait vraiment sur des pupitres de peintres. Voilà. Non, j'enchaîne.
Oui, vas-y, vas-y.
Un autre projet assez particulier que j'ai avoir du mal à pitcher, c'est Intact. Alors, ce projet-là, je n'ai pas participé dessus. Le contexte est un peu particulier. En gros, c'est un ami qui a contacté Tatiana, sachant qu'elle aimait bien travailler du coup avec des artistes de différents horizons, et qui l'a mis en contact avec un chorégraphe. Comment il s'appelle ? Jean-Marc Matos, d'une compagnie de danse sud-ouest de la France. Qui était très intéressé par les arts numériques et souhaitait faire justement une pièce interactive qui mêlerait justement un petit peu de danse et intégrerait en tout cas des danseurs et de l'art numérique. Du coup, Intact a été créé dans ce contexte-là et était exposé pour la première fois dans une abbaye dans le sud de la France. Une abbaye, ouais, je crois que c'est ça. Bref, et du coup, en fait, le concept de ce projet un peu particulier, c'est du coup une sorte de... Là encore, c'est un ciel suspendu, mais fait de watts, parsemé en fait de fils électriques qui servent en fait à la conduction. C'est-à-dire qu'en fait, au sol, il y a aussi des plaques d'aluminium. Et en gros, le principe, c'est que les joueurs vont pouvoir en fait toucher le ciel. Ils sont invités en fait à toucher le ciel, caresser les nuages, en fait, on va dire, et faire conduction grâce à leur corps pour qu'on récupère en fait les inputs, différents inputs, qu'on sache en fait quelle partie du ciel ils ont touché. Et du coup, le ciel est représenté à la fois par cette ouate, pour l'aspect cotonneux, et au-dessus se trouvent des LED qui vont réagir en fait aux inputs des joueurs et vont s'exciter, vont changer de couleur, changer de rythme, etc. Jouer une animation différente. L'intérêt en fait de ce projet-là, c'est enfin, en tout cas la particularité de ce projet-là, c'est que du coup, à nouveau, on ne donne aucune instruction directe aux joueurs. C'est à eux de découvrir en fait ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand on va titiller telle partie en fait du dispositif, telle partie du ciel, etc. Sachant que en le faisant dans certaines parties, ça va de proche en proche faire des réactions en chaîne en gros sur les autres parties du dispositif. Et en fait, les règles ne sont jamais données aux joueurs directement. Elles sont le joueur est incité à faire des actions à l'aide de deux PNJ, on va dire, qui sont en fait des danseurs, qui ont en gros un ensemble de règles à respecter, en fait, on va dire, notamment, ils doivent être muets, ils n'ont pas le droit de parler, ils doivent mimer en fait les actions ou inviter par la danse les gens justement à entrer déjà sur scène, à se déchausser, à entrer un petit peu dans l'univers du jeu, et du coup entrer en interaction avec ce ciel et à les guider en fait au long de l'expérience. Du coup, c'est un petit peu un design un peu particulier parce que du coup, il y avait ce côté laisser à ces danseurs, en fait, c'est aussi leur spécialité, mais une part d'interprétation, une part d'improvisation en fait dans leur façon de faire, et tout en leur donnant simplement un set de règles à respecter. Donc c'était encore un projet un petit peu particulier. Dead Pixel, j'en ai parlé. Bose, c'était un autre projet qui n'est pas un jeu, qui a été réalisé en gros avec en collaboration en fait avec un VJ qui est aussi shader artiste et un DJ. Et le principe en fait de ce projet-là, c'était en gros lier les spectateurs, les danseurs en fait d'un club, c'est exposé dans un club parisien, au VJing. De façon générale, en fait, le taf d'un bon DJ, c'est d'arriver en fait, en gros, à interagir avec son audience, on va dire, à les inciter à danser et en fonction en fait de si ça prend ou pas, en fait, lui-même adapter sa programmation. Pour les VJs, ils peuvent faire partie, peut avoir le même principe, on va dire. Mais là, l'idée, c'était d'avoir une propre console en fait de VJing qui intègre des effets particuliers et puisse en fait injecter le feed d'une caméra qui filmait en fait du coup les gens, les danseurs en fait, enfin les clients en fait, on va dire, du club, qui étaient rendus en fait sur un écran avec du coup tout un système de glitch, de shader en fait qui venait manipuler en fait l'image, transformer en fait le rendu. et du coup inciter les gens, bon déjà dans la plupart du temps les gens dans des clubs on n'a pas besoin de les pousser spécialement à danser, mais là du coup en fait ils entraient en interaction non plus directement entre eux, mais la plupart en fait du coup faisaient face à l'écran et s'amusaient du coup en fonction des modifications, une notamment c'était une sorte de kaléidoscope par exemple, à ne montrer qu'une partie de leur corps, faire une sorte de mouvement de vague etc, et les personnes du coup qui étaient à l'autre bout de la caméra, n'étaient pas là, cherchaient à se toucher mais leur corps projeté dans l'écran et déformé en fait par les effets graphiques. Du coup, c'était une autre façon de faire participer en gros le public au rendu final du projet, au rendu qui était rendu par la caméra, en intégrant du coup une part d'improvisation des gens ce coup-ci et pas de personnes complices.
Et c'est resté en place longtemps ou c'est
Vraiment juste le temps d'une soirée.
Ouais, c'est ça, c'était vraiment.
Ouais.
Il n'y a pas d'idée de le refaire ou.
Ah, ça pourrait, là c'était vraiment dans un cadre un peu particulier parce que du coup c'était j'ai plus le nom du club, c'était un club parisien c'était vraiment lié au set d'un DJ qui durait 2 heures, un truc comme ça sur place et voilà, en collaboration avec un DJ et autres, donc là c'était vraiment un one shot, potentiellement effectivement ça pourrait être fait. Ça c'était un exemple de rendu projeté par caméra. Jungle In, c'est une pièce que Tatiana a fait seule, pour le coup, dans un peu le même contexte que Dead Pixel. C'est aussi cet assaut de Roubaix qui l'avait contacté pour, je crois que c'est la Nuit des Lumières, un festival en fait, qui a lieu du coup, à Lille-Roubaix en fin d'année, je crois. Et lui avait donné carte blanche en fait, pour faire une sorte d'installation immersive. Et du coup, le principe de Jungle In, c'est une sorte de, littéralement de jungle de LED, programmé du coup pour avoir des séquences, et en fait le principe de ces LED c'est que c'est en fait on peut les chaîner, c'est-à-dire en fait une guirlande de LED en fait peut être branchée à une autre, et le principe c'est que la première va pouvoir communiquer sa séquence d'animation aux suivantes, et du coup les joueurs sont invités à brancher et débrancher les LED pour en fait créer un petit peu l'ambiance qu'ils veulent, c'est-à-dire s'ils veulent reproduire telle animation donnée par tel LED maître, on va dire, par un jeu de proche en proche, ils peuvent comme ça en fait la diffuser dans l'ensemble de la pièce. Je sais même plus combien de mètres de LED en fait dans cette installation, mais bon, cette photo-là ne rend pas très très bien. Bref, ça c'est un autre projet qui était intéressant, qui a été exposé aussi en one shot pour, je crois que c'était vraiment juste que la nuit et je crois que c'était 1 ou 2 jours, voilà, où les gens étaient aussi l'équivalent d'une pièce immersive en fait, les gens étaient vraiment invités à rentrer à l'intérieur et à littéralement toucher le dispositif, entrer en jeu, etc.
Sur cette pièce-là, comme pour les autres d'ailleurs, est-ce que c'est, enfin, j'imagine que c'est ça peut aller dans les deux sens, mais est-ce que tu sais ce qui est au départ, à savoir, est-ce que c'est trouver du matériel, un type de matériel, comme on le voit là, avec des guirlandes dont les animations peuvent se répliquer ou se diffuser, qui donne l'idée ou qui donne l'idée de l'installation, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'idée de l'installation qui arrive d'abord et après, il faut trouver le matériel ou trouver la façon de le réaliser physiquement?
Alors, je ne pourrais pas répondre pour ce projet-là en particulier. Je sais que Tatiana avait déjà expérimenté le fonctionnement des LED classiques, etc. Sur un autre projet, mais pas exposé pour le coup. Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, en fait. Il y a eu au fur et à mesure des projets, il y a eu les deux cas, en fait. Là, effectivement, une techno intéressante qui donne lieu à un projet derrière, qui donne envie d'être exploité, qui donne lieu à un projet derrière. C'est très souvent le cas, en fait, avec les contrôleurs alternatifs. On a besoin de faire de la prospection, de voir ce qui sort comme nouvelle technologie. Et de s'y intéresser pour faire quelque chose. Là, c'était, je pense, c'est plutôt l'inspiration, c'était le thème simplement, le fait de, c'était que des installations basées sur la lumière, et c'était le fait justement d'avoir ce côté, toute la pièce était sombre à part ces LED, et du coup de vouloir jouer avec la lumière et de vouloir quand même créer de l'interaction avec de la lumière qui sorte de des spots, des trucs avec, je sais pas, un téléphone portable ou ce genre de choses en fait. Donc, pour répondre plus précisément, là, je pourrais pas trop dire, mais voilà.
Non, mais j'imagine effectivement que c'est les deux se nourrissent en fait, la veille technologique et le fait d'avoir une thématique ou une demande permet d'aller chercher dans ce domaine-là. Effectivement, là c'est une expo sur la lumière, bon, d'aller chercher ce qui se fait avec des guirlandes électriques.
Ouais, tout à fait. Un peu avant justement Jungle In, Tatiana a participé à un autre type de résidence artistique un peu particulière qui s'appelle The Brain, qui se tient à Berlin tous les ans, je crois, depuis 5-6 ans, qui est un peu particulière parce que du coup elle réunit obligatoirement un artiste allemand, pas forcément berlinois, mais généralement, un artiste polonais, un ou une artiste polonais, et un français, parce que c'est une réunion en fait des instituts de ces trois pays. Et du coup, Magnesia a été créé du coup par trois personnes. C'est encore un jeu qui n'a pas du tout de... Alors pour le coup, celui-là n'a aucune composante numérique. Il n'y a pas d'ordinateur derrière. C'est uniquement de l'électronique. Le principe, en gros, c'est une espèce d'énorme boîte en bois avec différentes couches de plexiglas, avec volontairement de l'électronique apparente. Et le principe, c'est que les joueurs, ça se joue par équipe, une équipe rouge, une équipe bleue. Chaque joueur va être doté d'un cylindre qui contient en gros du néodyme. C'est un type d'aimant assez puissant qui va servir à contrôleur. Et le but du jeu, à l'intérieur de la boîte, figée entre deux plaques de plexi, se trouve un certain nombre de balles, je crois qu'il y en a 5 en tout, que les joueurs vont devoir diriger, des balles en métal, du coup, vont devoir diriger avec leurs aimants vers des points d'objectif de leur propre couleur. À ce moment-là, avec la conduction électrique, le fait d'amener une bille de sa couleur dans un de ses points d'objectif va faire passer le courant et va allumer justement les LED qui correspondent à sa propre couleur. Et quand les trois sont chaînés, et ben à ce moment-là, il y a la petite animation de victoire. Derrière, comme il n'y a pas de composante numérique ou quoi que ce soit, bon, il y a besoin d'un modérateur justement pour aller remettre les balles en place, etc. Mais derrière, effectivement, c'est du pur dispositif électronique. Il n'y a vraiment pas d'ordinateur, de quoi que ce soit. Les sons, tout est géré par des cartes.
Et là, le contexte aussi, le choix du sujet et justement d'aller vers de l'électronique pure et pas de numérique, c'était lié au contexte ou c'était juste un défi personnel ou c'était parce que ça s'y prêtait plus ?
Alors, de mémoire, en fait, c'était la première édition de The Brain et du coup, l'idée de base est venue, du coup, c'était un brainstorm justement entre les trois artistes. Et l'une d'entre elles insistait en fait pour s'inspirer du coup juste du thème le cerveau puisque The Brain. Et du coup ils en sont venus à parler de système électrique, de tenter de représenter un peu le système nerveux humain avec un parallèle avec les systèmes électriques, ce genre de choses. Après les règles de jeu etc sont venues un peu plus tard. Pour l'aspect full électronique comparé au fait de faire du numérique, là c'est plus les compétences dont disposaient ces trois artistes là. Qui les a poussés effectivement à aller travailler plutôt le plexiglas, les aimants, le bois, l'électronique et compagnie, et pas partir sur du jeu vidéo. En fonction des éditions, il y a eu, c'était un peu bizarre, je ne sais pas trop pourquoi ça a été fait comme ça, il y avait parfois deux groupes d'artistes qui s'enchaînaient en fait. Du coup, il y a eu une année où c'était trois femmes, puis trois hommes, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin bref, on s'en fout. Et effectivement, là du coup, les rendus étaient très différents, parce que du coup, le groupe des garçons, on va dire, eux sont partis plutôt sur un truc full numérique, et du coup, c'était vraiment, c'était très très libre en fait, il n'y avait même pas de thème, de sujet ou quoi que ce soit en fait. Donc du coup, là, elles ont choisi ce thème-là, et elles l'ont abordé cette façon-là. Et après, pour effectivement l'aspect full électronique, c'était leurs compétences. Voilà. Alors, du coup, je suis désolé, j'ai pas la présentation avec les vidéos pour que ce soit plus parlant, mais sur le site de Tatiana, normalement, je crois qu'il y en a, et vous pouvez rechercher en fait sur ce projet-là. C'est vrai que mis en image, c'est un petit peu plus intéressant.
Pour le site, si vous cherchez MacBird sur Internet, vous trouverez très très vite.
Je crois qu'il y a une page de ref à la fin de cette conf. GPU, du coup, c'est un. Je crois que ça veut dire Glitch Processing Unit. Et c'est un projet. Alors, j'ai plus le contexte en tête. Je crois que c'était fait dans une jam. Avec le même shader artist qui a participé, du coup, à Bose. C'est une première collaboration entre eux. C'est un jeu assez spécial. En fait, le principe, c'est que, du coup, les joueurs sont invités à charger l'image de leur choix, en fait, dans le programme au début de la partie. Le programme va du coup générer derrière une nouvelle image volontairement glitchée, donc avec du coup tout un tas de shaders qui viennent intervenir dessus pour déformer l'image et la rendre un peu illisible. Et du coup, le contrôleur, c'est une sorte de boîte en bois un peu chelou avec tout un tas de boutons qui marchent par paire, il y a deux fois la même couleur. Et le principe, c'est que du coup, aléatoirement, le système va attribuer à chaque paire de boutons un des shaders. Et du coup, ça change à chaque partie. Donc, du coup, c'est pas la peine de jouer deux fois. Il n'y aura pas d'avantage à jouer deux fois. Il faut refaire un peu le même principe à chaque fois. Et du coup, le jeu, l'intérêt de ce jeu-là, en fait, vient justement de ce contrôleur un peu fucked up. Parce que si on avait une simple console et des étiquettes qui montrent effectivement tel shader, on peut le monter de 0 à 10 sur une jauge, etc., pour le régler, il n'y aura absolument aucun intérêt, il n'y aura pas de challenge. Là, le but, en fait, c'est d'explorer ces différents boutons, tenter de comprendre, en fait, ce qu'ils font, comme action, quel shader il contrôle et comment il le module, pour arriver à comprendre comment marche finalement le dispositif et arriver à revenir en fait, le but du jeu c'est de revenir à l'image d'origine en annulant l'effet des shaders parasites en fait on va dire. Voilà. Hop. sais pas si tu avais des questions sur...
Non. Et pour le coup, celui-là, j'ai pu le tester.
Donc. Ah, d'accord. Assez spécial. Mais il a, pareil, il a été exposé que deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais c'est un projet qui était assez intéressant. Et on sera peut-être amené à le représenter à Paris dans quelques semaines, je crois, à la fin du mois, à la Cookie Demo Party, parce que c'est un event organisé justement par le shader artist qui s'appelle Léon Denise. Je pourrais peut-être citer son nom quand même. Voilà. Alors, en termes de contexte chelou aussi, Snailedit, c'est un projet qui a été réalisé parce que Tatiana a reçu un jour un coup de fil de la part d'un duo de game designers allemands qui l'ont proposé de participer à une émission produite par Arte qui devait les suivre durant un tour d'Europe que ces deux gars devaient réaliser où du coup ils voulaient dans chaque pays qu'ils allaient traverser travailler avec un game designer local et réaliser un projet en mode jam. Ils avaient un peu plus de 48 heures je crois, 72 heures je crois pour réaliser un projet. La difficulté là, c'est qu'à ce moment-là, Tatiana, il la connaissait notamment parce qu'elle avait déjà fait un certain nombre de jeux avec des contrôleurs alternatifs, des contrôleurs créés par elle-même, etc. Donc, c'est parfait pour être exposé dans un contexte d'exposition, etc. Par contre, là, la contrainte, c'est que le jeu qu'il devait produire devait pouvoir être téléchargeable sur le site d'Arte. Du coup, contrôleur alternatif, ça ne marchait pas trop. À moins de faire un truc en carton avec des patrons à la limite dispo, ça n'aurait pas été terrible. Et les gens auraient dû quand même se procurer des boutons, etc. Donc là, du coup, l'idée qu'elle a eue derrière, en fait, c'est de faire quelque chose d'un peu plus simple et du coup de partir de l'idée de détourner un petit peu l'usage d'un clavier classique et de faire en sorte qu'on crée du jeu et de la compétition en mettant plusieurs joueurs ensemble sur le même clavier. Ça va du fait que du coup c'est un peu du jeu en dehors du jeu, en dehors du côté numérique, avec le côté coup de coude, pousse-toi, etc. Donc le principe du jeu est un petit peu bizarre. Normalement, ils étaient à jeun quand ils l'ont pondu, mais en gros, tous les joueurs contrôlent un même avatar, qui est une sorte d'escargot, qui se balade en fait de nœud en nœud sur un graphe. Chaque joueur choisit une couleur, et le principe, en fait, c'est simplement d'attirer l'escargot sur une des cases de sa couleur. Et en gros, il va se déplacer de nœud en nœud, de proche en proche, en fonction de la touche qui va être appuyée. Donc à chaque fois qu'un escargot arrive sur un nœud, tous les nœuds à côté reçoivent une lettre, et en appuyant sur cette lettre-là, il va se déplacer vers cette extrémité. Du coup, le principe, c'est d'être le plus rapide possible, d'amener l'escargot vers sa case, et de jouer des coudes, en fait, pour que les adversaires ne réussissent pas, eux, de leur côté, à le ramener.
C'est le premier qui appuie qui détermine la direction de l'escargot.
Ouais, et les contrôles sont bloqués le temps qu'il se déplace et ainsi de suite.
Et alors sur ce projet, là encore comme sur les autres projets, qui mettent en jeu vraiment les corps à grande proximité. Alors, c'était le cas pour Negemu où effectivement les gens peuvent éventuellement finir l'un sur l'autre. Ou celui-là où sur un clavier, j'imagine que si on joue à 4, c'est effectivement vite le bordel.
Ouais.
Voilà. Est-ce que vous faites des tests particuliers, quelles limites aussi vous vous posez sur justement sur la façon dont les gens peuvent appréhender leur corps dans le jeu du coup
Alors pour Snailedit, ça a été playtesté de mémoire. Du coup, là, c'est un peu le playtest qui a parlé, en fait, on va dire. Tatiana avait déjà expérimenté le fait d'avoir du coup plusieurs joueurs sur un même clavier. C'est une perturbation un peu classique, on va dire, du système d'interaction classique, en fait, du coup, qui est conçu plutôt pour un utilisateur à son interface de contrôle et obtient des informations via son interface de rendu. Là, le perturber en mettant plusieurs joueurs sur la même interface de contrôle, c'est quelque chose qu'elle avait déjà expérimenté. J'en ai pas parlé, mais en fait, concernant Dead Pixel, on avait deux versions différentes. La première, en gros, chaque joueur avait son propre pupitre avec son propre joystick. Les gens étaient écartés, il y avait quasiment un mètre en fait, entre eux. Du coup, ils pouvaient communiquer, etc. Mais du coup, cette disposition-là, elle marchait dans des grandes salles d'expo. On a fait une version plus réduite où, pareil, en gros, là, c'est une seule boîte qui contient tous les joysticks et les joueurs sont aussi amenés, sur le même principe, à jouer des coudes. Là, alors pourtant, cette pièce-là a été exposée déjà plusieurs fois. J'avoue que j'ai pas tellement vu en fait de joueurs vraiment se foutre sur la gueule en fait et y aller en mode on se pousse, etc. Alors ça dépend peut-être de l'aspect plus stratégique du jeu, je pense, comparé à Snailedit où là c'est vraiment plus bourrin parce que c'est le plus rapide qui gagne. Là, comme il y a une réflexion, je pense que les gens sont quand même plus captés par l'écran malgré tout que par la rapidité et le fait de jouer au niveau du contrôleur l'interface de contrôle plutôt que de l'interface de rendu.
Oui, parce qu'ils pourraient empêcher leurs adversaires de jouer quasiment vu qu'ils sont
ils sont un écart de main en fait, tout à fait. Mais les gens sont très très fair play et non, ils jouent chacun avec leur petit truc dans leur coin. Du coup, non, on s'attendait à ce que ça soit. Cette version-là, c'était pour que ce soit plus facilement transportable, etc. Mais il y avait aussi cette intention en fait, de rapprocher les gens et rajouter un aspect compétitif, pas seulement dans l'espace numérique, mais aussi dans l'espace physique. Et ça, on ne l'a pas trop constaté. Parfois, ouais. Mais généralement, ça va être genre les groupes de potes qui viennent et qui se... voilà.
Les gens qui se connaissent.
Ouais.
Mais des gens qui se connaissent déjà, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Mais quand les gens arrivent genre, en famille et ils jouent frères et sœurs, etc., dans la même équipe ou des équipes à côté, etc., cet aspect un peu plus, moi je vais dire agressif, même si ce n'est pas vraiment le cas, là j'avoue que sur ce jeu-là, ça ne fonctionne pas. Mon analyse à moi, ça vient effectivement du type de jeu, qui est plus, un poil plus stratégique, je pense. Ouais. Voilà. Ça c'était, je crois que c'était aussi une expo, je crois que c'était au Badaboum à Paris, donc c'est aussi un club en fait, parisien. Black Box du coup, je vais plutôt mettre l'autre photo, c'est pour le coup un jeu qu'on a développé pour une expo, à partir d'un contrôleur qui existait déjà, en fait, c'est... Le nom n'est pas super original, ça s'appelle Black Box parce que c'est littéralement le contrôleur, est littéralement un cube noir en bois avec un bouton sur chacune de ses faces, y compris en dessous, parce que c'est un peu chelou. Et du coup, à la base, c'est un cadeau que Tatiana m'avait fait, donc du coup, l'objet existait déjà, mais on n'avait pas de jeu et on a eu l'opportunité en fait, de présenter un jeu pour une expo. Donc en gros, on a fait un peu en mode jam, mais nous-mêmes, un projet en 48 heures. Même moins que ça, je crois, qui a été exposé. Et du coup, la première version du jeu, donc c'est un jeu de rythme, c'est pas le jeu en lui-même n'est pas très compliqué. On a des inputs qui apparaissent en fait sur l'écran et on doit appuyer sur les bonnes faces du cube. Le truc, c'est que le cube de base, même moi, je pouvais en fait facilement appuyer sur deux touches en même temps avec mes mains sans avoir trop à bouger. Du coup, la complexité venait du fait qu'au fur et à mesure, le rythme de la musique s'accélérait et du coup, il y a un petit peu plus de complexité, enfin en tout cas de difficulté. Mais derrière, en fait, en termes d'expérience par rapport au contrôleur, c'était relativement limité. On n'avait pas vraiment la sensation de jouer à un jeu de rythme. Et du coup, on en a fait une deuxième version. Où là, du coup, je sais pas si on verra bien, en fait. Ah, si, je pense que niveau rendu, ça passe. Ça ressemble un peu à Dalek, ce truc. La deuxième version, c'est une pyramide à base carrée, tronquée, au sommet, qui, du coup, a toujours un bouton sur chacune de ses faces, sauf ce coup-ci en dessous. Et du coup, à la base, on voulait même le faire encore plus gros, mais pour des raisons de logistique, ça aurait pu être plus compliqué. On a changé le type de bouton pour des boutons beaucoup plus gros, qui donnent plus envie de les percuter violemment. Et du coup, on s'est beaucoup plus rapproché de l'expérience de base qu'on souhaitait, d'un gameplay plus percussif, en fait, où là, on a un peu visé l'anti-ergonomie, c'est-à-dire on ne voulait pas que le dispositif soit spécialement simple d'usage. On voulait ce côté, justement, que les joueurs jouent en rythme et aient besoin de bouger leur corps en fait, autour de l'objet. Et justement, même dans les patterns en fait, donnés aux joueurs, il y a ce côté compliqué de devoir faire des mouvements où on a besoin de, pas vraiment de se contorsionner, mais en tout cas, appréhender en fait, tout le dispositif, en fait, faire bouger ses bras à droite à gauche, et plus flémardement en fait, d'avoir simplement à bouger ses doigts à gauche à droite rapidement, etc. Du coup, pour cet objet-là, on a eu l'occasion de l'exposer plusieurs fois et de... à la base, en fait, on avait juste une mixtape qui a été faite par le même DJ qui a participé au projet Bose. Et du coup, en l'exposant en Angleterre 2-3 fois et en Écosse, on a été contacté par des DJ qui exposaient dans ce truc-là et ils nous ont proposé en fait, de faire des mixtapes supplémentaires en fait, pour ce même projet. Du coup, on a eu l'occasion comme ça, de le faire tourner plusieurs fois et d'avoir différentes versions.
Et là, le fait d'avoir... agrandit le cube par rapport à la version 5. Alors déjà, c'est quoi cette histoire de cube? Quelqu'un invente un contrôleur sans qu'il y ait d'application prévue pour ou...
Ouais, c'était une idée, justement, de contrôleur qui, derrière, n'avait pas d'idée précise en fait, de jeu.
Et comment il se connectait
Ah, c'est de l'USB. Là, pour le coup, c'est très, très simple. D'accord. C'est vraiment en fait, des boutons d'arcade reliés à une carte comme tu as dans un stick arcade classique. Et derrière, en fait, tu avais simplement un câble USB qui part et tu le branches sur ton ordi. Voilà.
Et donc, le changement d'échelle changeait aussi beaucoup le comportement des gens
Ouais. Ouais. On a dû rajouter des patins antidérapants en dessous parce que justement l'aspect percussif ce coup-ci on l'avait, donc on était content par rapport à ça, mais les gens y allaient franco. Mais du coup, ouais, le seul reproche que j'aurais par rapport à ce contrôleur-là, c'est les boutons ne s'allument pas. C'est pas bon, c'est plus chiant à gérer. Là, du coup, il aura fallu un autre type de dispositif pour le gérer, au moins une carte Arduino ou quelque chose pour envoyer des instructions ou boutons. C'est le seul truc qui dérange un petit peu, mais par contre, effectivement. Cette forme-là est beaucoup plus proche de l'expérience qu'on a voulu quand on a ce coup-ci designé le jeu. Mais effectivement, le premier contrôleur n'était pas spécialement adapté en fait au jeu qu'on a fait. À la base, il existait avant.
Et alors, est-ce que vous auriez envie de faire encore plus grand, un truc dont on serait obligé de faire le tour en courant ou de se jeter sur le sommet physiquement?
Pourquoi pas? C'est toujours la difficulté derrière en termes de logistique, de construction, de pouvoir en fait le déployer, de le récupérer, de l'amener à d'autres expos ou simplement le garder chez soi après.
Stocker, oui.
Ouais, chez moi c'est un peu, ça devient un peu petit. Mais c'est intéressant. À la base, en fait, on espérait le faire plus grand aussi pour proposer en fait, pas forcément un mode de joueur, mais faire de la coopération, ça nous semblait intéressant, notamment faire un peu des accords, enfin se dire qu'il fallait appuyer sur trois inputs par exemple en même temps, chose qu'on ne peut pas faire tout seul ou avec sa tête. Mais bon, avec la taille du contrôleur actuel, on n'a pas besoin de le faire, donc du coup, bon. Mais ça pourrait être, voilà, on pourrait avoir une version 2.0 ou 3.0 pour le coup, qui serait encore plus grande effectivement. Ou alors d'autres types de jeux basés sur ce même contrôleur, en fait, serait aussi possible. Alors, jeu de main, je ne vais pas avoir grand-chose à dire dessus parce que c'est un projet où je n'y ai pas participé. C'est un projet qui a été réalisé dans une jam qui, malheureusement, n'existe plus, qui avait lieu à Lille tous les ans, qui s'appelait Zoo Machine. C'était un festival, enfin c'était une jam, plutôt à la base la jam s'appelait l'Art Game Weekend, du coup c'était des jeux qui avaient normalement une dimension, devaient présenter une dimension artistique, bref, c'était plus ou moins suivi par les gens. Jeu de main, c'est un projet que Tatiana a réalisé avec une amie qui à la base n'est pas du tout du domaine du jeu vidéo, et du coup encore une fois, le mélange de leurs compétences a fait qu'elle ne voulait pas se tourner spécifiquement vers justement un jeu vidéo, laisser un petit peu côté l'aspect numérique. Et du coup, elles sont arrivées à cette idée-là de jeu un peu chelou. En gros, ils sortent d'énormes poufs, un gros pouf, percé de 4 trous. Deux rouges et deux blancs. Les joueurs sont invités, du coup, donc ça se joue à deux équipes de deux, à mettre leurs bras à l'intérieur. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à. Le dispositif à l'intérieur, c'est du grillage, en fait, je crois, une sorte de labyrinthe, en fait, en métal, dans lequel il faut mettre sa main et arriver, en fait, à saisir la main de son coéquipier en empêchant, du coup, les mains de ses adversaires d'entrer en contact. Donc là, derrière, je ne voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est du makey-makey, en fait, qui permet, un peu comme sur un tact, de détecter la conduction des corps. L'électricité qui passe dans les corps. Donc le dispositif est relativement simple en fait, mais là l'intérêt en fait c'était vraiment de voir comment les gens réagissaient avec cet aspect un peu chelou de devoir mettre sa main dans un truc, bon, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, bon, un petit côté Fort Boyard on va dire. Et voilà, et du coup voilà, c'est un projet qui a été réalisé en 48 heures, c'est pas non plus un projet de commande ou autre comme on a pu voir avant, mais du coup ouais, c'était un petit projet encore une fois intéressant, c'est un des premiers qu'elle a fait justement sans cet aspect, sans avoir besoin finalement en gros d'un côté numérique en fait, d'avoir besoin d'un écran en fait pour jouer.
Dans les projets que tu présentes, il y en a beaucoup dont tu précises qu'ils ont été faits lors de jam en 48 heures etc,
ouais.
Est-ce que c'est, et j'ai l'impression qu'ils ont souvent une vie après d'ailleurs, déjà est-ce que c'est plus simple ou plus motivant ou une volonté de se contraindre à une durée si courte pour produire un projet par rapport à des projets de commande qui sont peut-être plus longs, donc d'avoir quelle est cette pratique de la jam, et par ailleurs est-ce que c'est toujours facile de faire poursuivre leur vie à ces projets-là une fois qu'ils sont sortis de jam, et est-ce qu'il y a besoin de beaucoup les retoucher, ou est-ce que en général c'est directement le projet fait en 48 heures qui voyage?
Alors ça, je pourrais reparler avec le projet juste après, Adsono, qui est justement le projet qui a été le plus exposé de tous les projets qu'a fait Tatiana, qui a aussi la V1 ou 0,1 plutôt, a été fait aussi en jam. Après là, c'est des projets jeux de main entre autres, et Adsono 2014-2013, donc c'est des projets assez anciens par rapport à la carrière de Tatiana, on va dire. Sur tous les derniers projets, donc les premiers que j'ai présentés ici, aucun n'était un jeu de jam. Ouais, GPU, c'était le premier dans la liste. Du coup, ça fait un petit moment qu'effectivement, on ne fait plus de jam en fait, en particulier. Mais pour moi, le gros intérêt de ces sessions-là, c'est surtout en fait, de pouvoir travailler avec d'autres personnes, et notamment des personnes qu'on ne connaît pas, notamment des gens qui ne viennent pas du tout du monde du jeu vidéo, qui peuvent être surtout intéressés, je sais pas, par la musique, la couture, une technologie à part, les sciences, ou n'importe. Et du coup, en fait, apporter leurs propres compétences, leurs propres pattes, leurs propres savoirs, et le mixer du coup à des gens qui justement sont plutôt des game designers, des game développeurs, mais surtout ouverts d'esprit et ne veulent pas justement faire un énième shoot'em up ou jeu de plateforme en 48 heures. Même si voilà, il y a une feature intéressante ou quoi que ce soit, non, c'était vraiment histoire d'expérimenter des choses très très différentes. Derrière, jeu de main par exemple a été exposé. Ce qui se passait à The Machine, c'est que du coup il y avait le week-end de création et une ou deux semaines après il y avait un week-end d'expo. Du coup, jeu de main a été exposé dans ce cadre-là, mais depuis n'a plus été exposé. Pareil pour GPU, donc ça c'est des projets qui n'ont pas vécu sur la durée. Snailedit est toujours dispo, je pense à mon avis, sur le site d'Arte. Il a été exposé deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Adsono a été exposé, je ne sais pas, peut-être une douzaine ou une quinzaine de fois. Donc ça varie énormément en fait, d'un projet à l'autre, ça dépend si ça prend bien, si c'est... En fait, ces jeux de jam, généralement, l'intérêt, c'est s'ils sont repérés en fait, par, généralement, quand un festival vous expose. Parmi les visiteurs du festival, vous avez des gens qui organisent d'autres festivals ailleurs. Qui peuvent du coup vous contacter et vous inviter en fait à exposer ailleurs. C'est ce qui s'est passé en fait notamment pour Adsono. Là pour Jeulemain, ça n'a pas été le cas. Donc du coup, il y a un côté un peu aléatoire, enfin c'est avec des guillemets hein, bien sûr, mais c'est vrai que plus le projet semble abouti et en tout cas original, plus ça vous permet de vous démarquer, plus il y a de chances effectivement que vous soyez contacté pour le faire vivre et continuer d'explorer après. Je vais justement enchaîner sur Adsono. Est-ce qu'on a les deux versions? Ah non, il y a qu'une version, merde. Adsono justement, c'est le projet que Tatiana a le plus exposé. À la base, c'était un projet de jam réalisé l'année précédente, jeu de main, si je ne dis pas de bêtises, toujours à The Machine. Tu parlais de Twister tout à l'heure, bah, justement, c'est une des références en fait, pour ce projet-là. Tatiana le définit généralement comme une sorte de Twister électronique qui joue debout et sur le corps de l'autre. En fait. Le principe, c'est que du coup, chaque joueur, donc ça joue à deux, c'est un jeu de coopération, chaque joueur va se retrouver sanglé avec cinq boutons, généralement deux au niveau des cuisses, genoux, deux sur les bras, et un au niveau de la taille. Et le principe, c'est qu'en gros, le système va à chaque tour désigner aléatoirement 2, puis 3, puis 4 LED, enfin boutons illuminés sur le corps de chaque joueur. Et le principe, c'est tout bêtement d'arriver à appuyer simultanément sur l'ensemble des boutons allumés. Il n'y a pas d'autres règles. C'est-à-dire que les joueurs derrière peuvent appuyer sur les boutons comme ils veulent, en servant de leur propre corps, le corps de l'autre, essayer de toucher bouton contre bouton, s'agenouiller, etc. Bon, ça, c'était pas recommandé parce que le truc était en bois, mais on l'a eu. Et à nouveau, ce qui était intéressant pour ce projet-là, c'est que du coup, comme elle a eu l'occasion de l'exposer plusieurs fois en France, en Afrique du Sud, en Allemagne, je ferai pas le tour en fait, je sais plus, Amsterdam, je crois, ou enfin aux Pays-Bas. Du coup, je parlais justement pour Negemu du fait d'avoir du coup des comportements qui changeaient en fonction du rapport entre les gens. C'était beaucoup plus flagrant sur Adsono. Tatiana avait fait deux constatations. C'est le premier jeu qu'elle a exposé justement en club. Et du coup, il y avait ce côté vraiment les gens qui viennent en club pour danser, etc. Bon, en dehors de leur taux d'alcoolémie, il y a quand même ce côté ils viennent pour danser, ils n'ont pas vraiment peur du regard des gens, etc. C'est un contexte où du coup les gens n'avaient aucun problème à jouer, à vraiment se coller ensemble, etc., à jouer le jeu, parce qu'ils venaient vraiment pour rigoler. Quand on l'a exposé dans des lieux plus, pas forcément des musées, mais des trucs plus art numérique, etc., les gens étaient un peu plus réticents au fait d'entrer en contact les uns avec les autres. Et elle a eu des cas un peu spéciaux. Quand elle a exposé justement à Johannesburg, c'est un cas assez marquant, parce que j'ai malheureusement pas la vidéo qui va avec, mais ils servent d'exemple dedans. Il y avait deux frangins, qui étaient venus jouer au jeu et qui, eux, du coup, pour ne pas du tout avoir ce côté entremêlement des corps, etc., aspect potentiellement sexuel, on va dire, du jeu, jouaient vraiment comme des robots. Ils jouaient en mode comme s'ils faisaient la danse du robot ridicule, là. Et par contre, ils étaient super efficaces. Il y avait vraiment le côté, ils regardaient où étaient les boutons allumés chacun, ils prévoyaient le truc, et hop, ils faisaient le move, et hop, c'était bon, ils avaient fini, etc. En club, les gens se vautrent littéralement l'un sur l'autre, ils finissent par tomber, bah, c'est pas grave, ils continuent de jouer, etc. Il n'y avait vraiment pas du tout le même comportement. Pardon. Et pourtant, à l'instar de Negemu, il n'y avait pas de règles imposées. Le seul règle donnée aux joueurs, c'est tu vois un bouton allumé, tu appuies dessus, et basta. Et les gens jouaient finalement à Sono comme ils le souhaitaient.
Moi, je l'ai vu jouer sur un salon, sur un festival à l'époque avec Geekopolis.
Ah oui, ouais.
À Paris, effectivement, là, c'était des joueurs, le public, donc il n'y avait pas de retenue non plus particulière, même si, pour le coup, normalement, ils n'avaient pas trop bu. Il n'y avait pas de retenue particulière, mais c'est vrai que le dispositif lui-même rendait les gens curieux, quoi.
Ouais. Après, je ne sais pas quelle version tu avais testé, si c'était déjà en fait, les petites boîtes en bois comme ça.
Il me semble.
Parce qu'en fait, justement, il a été exposé plusieurs fois, il y a eu plusieurs prototypes. Là, on s'est arrêté sur cette version-là, qui a toujours des câbles en fait, et des espèces de, bah, de petites pyramides sur lesquelles reposent les boutons. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les boutons ayant besoin de LED, ça ne peut pas être des boutons d'arcade assez fins, il faut qu'ils soient assez gros. Du coup, voilà, on cherchait des moyens en fait, de faire en sorte que le dispositif soit plus léger, plus portable, mais on devait en faire une version sans fil. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un projet qui a été exposé pas mal de fois. Bon, on n'a plus forcément grand-chose à exploiter en fait, derrière. Donc il est un peu, c'est un projet qui a beaucoup tourné, mais là, pour l'instant, effectivement, il est gentiment rangé pour l'instant. Après, il y aura peut-être une V3 un jour, version sans fil sans doute. De toute façon, on va arriver dans les derniers projets en fait, qui sont du coup un peu plus anciens. Oort, c'est un des premiers projets que Tatiana a exposé. En termes de gameplay, c'est relativement simple. C'est un avoider, en fait, un jeu où on avance perpétuellement et on doit éviter des obstacles. La particularité, là, c'était vraiment le premier contrôleur un petit peu chelou qu'elle avait fait. C'est une sorte de boîte en bois où on a deux trous dans lesquels on va pouvoir mettre ses mains avec une bande de lumière. Et du coup, en fonction de la hauteur à laquelle on met ses mains, la lumière stoppe à cet endroit-là. Et du coup, à l'écran, le joueur dirige deux espèces de modules de pod, et en fonction en gros de la hauteur de sa main, ça va faire monter ou descendre le pod. Là, l'idée en fait derrière ce jeu, c'était de donner cette illusion, enfin comment dire, cette sensation en fait de contrôler quelque chose de façon intangible, en fait, de ne pas avoir du coup une manette directement, un bouton, un levier de vitesse, un volant ou quoi que ce soit, mais vraiment avoir l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose via juste de la lumière en fait au final. Donc ça, c'est un de ses premiers projets. Le contexte, j'avoue, je ne m'en rappelle même pas. Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus de choses. Justement, typiquement, c'est un projet qu'elle avait essayé de refaire avec ce coup-ci un contrôleur plus physique, là vraiment avec des leviers, etc. C'est une idée qu'on lui avait suggérée. Mais du coup, ça n'a jamais été fait. Donc du coup, c'est un projet pareil qui n'a pas tourné depuis plusieurs années, en fait. Tetra, c'est le pitch est tellement sympa. Là, c'est un, voilà, pour le coup, c'est un pur jeu vidéo avec un contrôleur alternatif qui était relativement simple, comme le projet suivant Isochrone. C'était simplement quatre boutons de couleurs différentes qui étaient chacun liés au niveau du jeu à une langue d'une couleur différente. Appuyer sur le bouton étendait la langue, et le principe en fait du jeu, on avait des espèces de vers bizarres qui traversaient l'écran. De différentes couleurs. Le but, c'était d'arriver à les avaler avec la langue, à les choper avec la langue qui correspondait à la bonne couleur. Et le but, c'était de la drogue, en fait. Et fallait arriver en fait, à droguer l'espèce de monstre qui est derrière, une espèce de Sheogorath, avant qu'il s'endorme, en fait. Donc le but, c'était, en feedback visuel, il y avait la dilatation de la pupille du monstre qui devait être le plus possible dilatée avant que l'œil ne se referme complètement et qu'il s'endorme, en fait. Donc du coup, c'était un très psyché dans le rendu visuel, et c'est des travaux en fait de, enfin le visuel a été fait justement par encore une fois Léon, qui aurait pu être là avec moi en fait finalement pour parler de ses projets, puisqu'il participait un certain nombre lui aussi, puisqu'il dessine aussi, et donc du coup c'était lui qui avait réalisé ces visuels là. Du coup là, c'était leur première collaboration ensemble, puisque Tatiana adore en fait son style graphique très particulier, et ça le dérangeait pas de faire un jeu avec un pitch aussi chelou. Pareil, ce projet-là, si je ne dis pas de bêtises, a été exposé deux fois, à Cergy Pontoise, près de Paris, et à Paris, je crois, mais je ne sais plus où. Ouais. Isochrone, c'est un autre projet alors, qui a connu une double vie. La première version avait été développée justement aussi pareil par Léon. Et du coup, le jeu était refait plus tard, du coup, par moi, en fait, où là, j'ai repris le projet de base, j'étais en flash. En flash. Et du coup, je l'ai refait sous Unity. Le principe du jeu est un peu... on va peut-être pas forcément bien le comprendre avec cette image-là, je vais plutôt remettre celle-ci. En gros, le principe, c'est qu'on a le joueur ou les joueurs, parce qu'à la limite, ça peut être joué en collaboration, à quatre boutons devant eux. Chacun représente en fait à l'écran une sphère. Donc il y a une sphère toute blanche, une sphère toute noire, une avec le centre blanc et le contour noir, et l'autre l'inverse. Chacune contrôlée par un bouton qui la représente, qui tourne en fait, ou qui avance tout simplement le long d'une ligne, chacune la sienne. Donc le premier niveau, en fait, c'est des cercles concentriques. Le principe, c'est qu'aléatoirement, elles ont une position de départ donnée au pif, quoi. Et le principe, en fait, c'est d'arriver à les recadrer. Tout le long du parcours, en fait, on a des petits points. Et lorsqu'une des sphères en fait, passe sur un de ces points, une note est jouée. Là, la musique qu'on avait choisi de mettre derrière, c'est un morceau de Steve Reich. qui justement a beaucoup travaillé en fait sur ce qu'il appelait la musique de phase, en fait, le fait du coup de déphaser en fait des moments musicaux différents pour arriver en fait à revenir derrière sur une boucle, enfin à la fin de la boucle, bref. Et du coup, le principe, c'est tout bêtement en fait d'arriver en appuyant sur les boutons à accélérer ou décélérer les différentes sphères et arriver en fait à les synchroniser pour qu'elles jouent le morceau et valider, passer au niveau suivant. Là, la difficulté, c'est que déjà sur le premier niveau, les gens galèrent. Mais comme on est vicieux, en fait, on a au fur et à mesure des formes géométriques de plus en plus complexes, donc ici une Lemmings 4, où là, en fait, il faut arriver à justement synchroniser les différentes sphères alors que le parcours commence vraiment à être fucked up. Bon, déjà sur des cercles, c'est chaud, mais là, c'est.
Pour l'avoir testé, effectivement, ça fait un peu des nœuds au cerveau.
Oui. Et puis, bon, c'est une horreur pour les modérateurs, en fait, généralement, parce que tant que le jeu tourne, il y a la même musique en boucle de Steve Reich qui, avec les notes décalées, en fait, est imbitable, mais. C'est un peu spécial. Mais du coup, c'est un projet qui a été aussi exposé à Strasbourg durant l'expo solo l'année dernière. Et du coup, pour finir, Lachi, là pour le coup, bah, c'est un projet que Tatiana a développé toute seule sous Unity. C'est son premier projet exposé. C'est un labyrinthe en 3D. Là, il n'y a pas de contrôleur alternatif, c'était vraiment sa première expérimentation. Le joueur est invité à se balader, à explorer cet espace un peu chelou. Et là, l'intention de base, c'était son premier projet, en fait, c'était de faire un jeu un peu sur la transgression. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est si le jeu comporte des indications, en fait, donc des flèches, on peut suivre les couloirs, etc. Si le joueur fait ça, il va juste tourner en rond. Il n'arrivera jamais à atteindre l'une des différentes fins du jeu possibles. Il va se faire chier très vite. Le principe, en fait, c'est justement d'aller à l'encontre en fait, des indications visuelles classiques de jeux vidéo qu'on va donner et explorer en fait, justement ce labyrinthe qui est constitué en fait, de glitchs, d'aberrations visuelles, d'effets un petit peu chelous, et d'explorer cet espace vraiment à ta façon, à toi, et pas justement suivre les codes. Des premiers exemples, c'est t'arrives à une espèce de cul-de-sac où il y a un panneau stop, bah en fait il faut simplement traverser le panneau puisque du coup il n'y a pas de collision derrière. C'est assez simple, mais derrière en fait il y a toujours ce comportement des joueurs de commencer systématiquement par suivre les indications et de voir en fait au bout de combien de temps, à tourner comme des cons en, fait, en mode rat de laboratoire dans le truc, ils en viennent vraiment à se dire ok là si il faut faire quelque chose, il faut que je transgresse les règles qu'on m'impose et que j'aille voir en fait au-delà des murs ce qui se passe. Donc voilà.
Ok. Parfait. Pour finir, je te poserais bien la question de savoir sur tous ces projets, dont surtout les plus anciens un peu moins, mais tous les autres intègrent le corps physique des joueurs. Qu'est-ce que vous explorez en fait ? Parce que c'est vrai que le game design, vous êtes tous les deux game designers, vient explorer en général des interactions. Tu parlais de signaux là sur le dernier, qui sont finalement assez classiquement uniquement prévus pour l'interface écran. À quel point ça change quelque chose de prévoir le corps et qu'est-ce que vous allez chercher en fait à travers ça?
L'un des intervenants, je ne connais pas son nom ce matin, la compte de ce matin, cité comme référence Johann Sebastian Just, oui. Qui est un jeu super intéressant, qui a beaucoup inspiré Tatiana notamment sur certains de ses projets. On a vraiment en fait c'est le côté en fait, elle a jamais voulu Tatiana faire des jeux classiques téléchargeables sur Steam que tout le monde peut avoir chez eux, etc. Son expérience en fait des contrôleurs alternatifs l'a amené à explorer beaucoup de choses sur l'aspect contrôleur de rendu et contrôleur de contrôle en fait. Mais derrière, en gros, l'exploration de l'espace numérique, elle connaît en fait, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour elle, plus original à faire. Ce qu'elle voulait, c'était explorer plutôt la sphère physique, l'espace social, et de voir en fait ce qu'on pouvait en tirer. Qu'est-ce que l'exploration de cet espace-là pouvait donner de plus original, plus intéressant, ou tout simplement de différent par rapport aux explorations numériques. C'est sans doute ça qu'elle a voulu creuser en fait dans ses dernières pièces, jusqu'à se passer même sur certaines d'entre elles de l'aspect numérique en fait totalement. Et du coup, ça passe pour la plupart de ses projets justement par remettre le corps du joueur en fait au centre de. Bah, il est au centre de cet espace-là, donc on peut pas le laisser de côté en fait et de voir comment justement on peut l'exploiter.
Très bien, merci beaucoup. Alors, vu qu'on est arrivé au bout de l'heure, je vous propose à tous, avec Olivier, on sera au niveau de l'installation là, ben, juste après, on va y aller. Donc, l'installation Contre-Ciel qui vous a été présentée parmi toutes celles qu'on vient de passer, qui se trouve donc en salle G. Donc, si vous avez des questions et que vous voulez discuter avec Olivier de leurs travaux, n'hésitez pas. Et puis le Contre-Ciel sera exposé jusqu'à la fin des Utopiales, donc n'hésitez pas aussi à passer tester ce piano et ce ciel qui change. Merci beaucoup Olivier.
Merci, j'ajouterais que si vous voulez contacter directement Tatiana, vous pouvez la joindre sur son Twitter @makebird, et sinon vous pouvez consulter son site internet makebird.fr.
Tout à fait.
Merci à vous.